La vie de ceux qui sont nés de Dieu. Alors la plupart d'entre vous savez ça, mais avec ma femme Jessica, il y a quelques semaines, on a eu la joie d'accueillir notre petite fille Joy. C'était une grande joie de l'accueillir, elle a bientôt 8 semaines. Et alors ça ne fait pas partie de la prédication, mais entre parenthèses, on voulait dire merci à toute l'Église pour l'amour que vous avez témoigné de différentes manières. C'était vraiment encourageant, que ce soit à travers des repas, au travers des messages d'encouragement, etc. On est vraiment reconnaissant pour cela. Mais si je mentionne Joy, notre petite fille Joy, c'est parce qu'il y a une grande question par rapport à elle, une grande question qui fait couler beaucoup d'encre, c'est à qui est-ce qu'elle ressemble? Est-ce qu'elle ressemble plus à Jessica, ma femme, ou est-ce qu'elle ressemble plus à moi? Alors tout le monde a un avis, tout le monde a un avis différent, je ne vais pas faire ici lever la main de ceux qui sont team Jessica et de ceux qui sont team Benjamin, mais vous pouvez nous dire après le culte. Pour l'instant, le consensus, c'est de dire que quand elle sourit, elle ressemble à Jessica, et quand elle fait des têtes bizarres, elle ressemble un peu plus à moi. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais en tout cas, même si c'est difficile à être d'accord, il y a une chose qui est claire, c'est qu'elle nous ressemble. Elle ressemble à ses parents. Il y a quelque chose de nous qui est en elle. On peut voir qu'elle fait partie de notre famille, de la famille Hagen. Et c'est un peu ce que Jean nous dit dans notre passage aujourd'hui. Pour chacun de nous, pour ceux qui nous entourent, il nous dit qu'on peut voir à quelle famille spirituelle on appartient. Une des vérités qui se trouve en arrière-plan de tout ce passage, c'est la nouvelle naissance. Il est parlé du fait qu'on est né de lui, chapitre 2, verset 29. Plus loin, ce sera précisé qu'on est né de Dieu, chapitre 3, verset 9. On a lu, Jonathan a lu ça au chapitre 3, verset 1, on est enfant de Dieu. Il est parlé de la nouvelle naissance, le moment où on devient chrétien, quand l'Esprit de Dieu nous change intérieurement, quand il change nos désirs, nos convictions, nos aspirations et qu'il nous donne la vie spirituelle. Et donc, on fait partie ensuite de la famille de Dieu. Et notre texte nous dit que si on fait partie de la famille de Dieu, alors ça va se voir. Ça va se voir dans différents domaines. Et ce ne sera pas des domaines radicalement nouveaux, c'est des choses qu'on a déjà abordées dans 1 Jean, dont Jean a déjà parlé, mais il les aborde avec une couleur un peu différente, on pourrait dire. D'abord, Jean veut nous montrer ce que ça implique d'être né de Dieu pour notre avenir. C'est notre premier point ensemble. Qu'est-ce que ça implique pour notre avenir? Il veut qu'on s'émerveille. Il veut qu'on s'émerveille du fait qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. Du fait, en fait, qu'on soit nouveau-né, né de Dieu. Alors, regardez le verset 1 du chapitre 3, je le relis à nouveau. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Il a fallu un amour immense, un amour qui dépasse l'ordinaire pour qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. Il a fallu que le Père, de toute éternité, dans l'unité avec le Fils et l'Esprit, porte son regard d'amour sur nous, nous choisisse, mette en place ce plan de salut cosmique, on pourrait dire. Il a fallu que le Fils, envoyé par le Père, vienne sur cette terre en chair, c'est-à-dire en devenant être humain, en vivant comme un humain parmi les humains, dans l'obéissance totale à son Père. Il a fallu que ce Fils soit crucifié, mis à mort par des êtres humains rebelles, dans des souffrances atroces, immenses, en portant sur lui, qui était innocent, la condamnation de nos péchés, la juste colère de Dieu contre le mal. Il a fallu que ce Fils revienne à la vie, ressuscité, vainqueur, monte à la droite du Père pour que l'on soit réellement juste devant Dieu. Il a fallu que le Père et le Fils envoient l'Esprit dans nos cœurs pour appliquer ce salut à nos âmes, pour nous donner justement la nouvelle naissance. C'est un plan cosmique de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future où Dieu est celui qui agit, où Dieu est celui qui décide, où Dieu est celui qui planifie. Et où nous sommes ceux qui recevons, ceux qui bénéficions, sans rien avoir mérité, par pure grâce. Et en raison de cette grâce, on est appelé enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. On doit être émerveillé devant ça, ça sort de l'ordinaire. Et je crois que souvent on n'a pas cet émerveillement parce qu'on pense que la grâce... c'est quelque chose de normal. Mais c'est normal, après tout, que Dieu pardonne. C'est ce qu'il doit faire. C'est normal que Jésus soit mort sur la croix. C'est pour ça qu'il est venu. Alors bien sûr, on dirait que ces choses sont super, mais on ne réagit pas toujours comme si elles étaient extraordinaires, comme si elles étaient dignes de notre admiration pour l'éternité. Mais on a besoin de remettre les choses en perspective. Ce n'est pas qu'on était aimable, ce n'est pas que Dieu avait besoin de nous, ce n'est pas que Dieu avait un manque à combler. Il aurait pu vivre tout le temps, sans nous, de toute éternité jusqu'à l'éternité future, en nous laissant mort dans nos péchés, sous sa juste condamnation, et personne n'aurait pu dire que c'était injuste, ça aurait été tout à fait juste. Ça, c'est ce qui était normal. Ça, c'est ce qui était mérité. Donc, ce n'est pas qu'on était perdus, errants, comme des victimes, comme des gens qui souffrent sans que ce soit leur faute et qui ont besoin d'aide, mais plutôt on était perdus et errants, comme des coupables, comme des gens qui s'étaient rebellés contre lui, qui ont tourné le dos à Dieu, qui ne voulaient rien à savoir de lui. Et c'est dans cette rébellion que Dieu est venu nous chercher. C'est dans cette rébellion que Dieu a manifesté sa grâce pour faire de nous ses enfants. C'est pour ça qu'on peut dire, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et cette grâce, elle prend encore plus de poids, on pourrait dire, quand on considère notre avenir, ce qui nous attend. Regardez le verset 2 du chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il est parlé ici, quand il est dit « lorsqu'il sera manifesté » du retour de Jésus. Jésus va revenir. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu qu'on était dans la dernière heure, c'est-à-dire cette période depuis la résurrection de Jésus jusqu'au retour de Jésus, où il ne reste qu'un seul événement dans le calendrier de Dieu, le retour de Jésus pour juger les vivants et les morts. Jésus va revenir, c'est certain. Et ceux qui lui appartiennent seront avec lui pour toujours. Et ce qui se passera, c'est qu'il y aura un grand changement pour les enfants de Dieu. On ne sait pas exactement tout ce qui va se passer. On ne sait pas à quoi notre corps ressemblera, ce qui va nous arriver, etc. Il est dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, ça n'a pas encore été révélé. On ne sait pas et ça ne sert à rien de spéculer. Dieu n'a pas choisi de révéler ces choses. Mais on sait quelque chose. Qu'est-ce que l'on sait ? Lorsqu'il sera manifesté, c'est-à-dire lorsque Jésus reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On n'est pas semblable à Jésus aujourd'hui. Jésus est parfait, sans péché, et nous, on est loin de l'être. Mais c'est l'un de nos objectifs en tant que chrétien, de grandir en sainteté, d'être de moins en moins comme on était et de plus en plus comme Jésus est, de plus en plus semblable à Jésus. C'est un processus qui va durer pendant toute notre vie chrétienne. Mais un jour, ce sera terminé, parce qu'on sera enfin semblable à lui. Il y aura un changement que Dieu lui-même va produire. Comme on le lit ailleurs dans la lettre aux Philippiens, voilà ce qu'il est dit. « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Fini le corps qui vieillit, fini les baisses de morale, fini la lutte contre le péché, fini la mort, toutes les conséquences de la chute. On sera enfin parfaitement semblable à Jésus. Et donc quand on est découragé par nos progrès dans la lutte contre le péché, il faut regarder plus loin. Il faut regarder à l'avenir. Il faut regarder à ce qui nous attend. Il ne faut pas regarder simplement à ce que nous sommes aujourd'hui, mais il faut regarder à ce que nous serons. Et c'est frappant de constater que ce changement aura lieu parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est une vision tellement glorieuse que ça va produire la transformation. Alors, on pourrait dire beaucoup là-dessus. Si vous voulez creuser ce verset, vous pouvez venir me voir avec plaisir pour en parler. Mais on ne va pas dire plus maintenant pour avancer. Mais c'est une vision tellement glorieuse qui produit la transformation en nous. Et alors, qu'est-ce que ça implique, tout ça, pour nous, aujourd'hui ? On voit le verset 3. Du chapitre 3, quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire en Jésus, cette espérance dont on a parlé, se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Si on a cette espérance si glorieuse, si on a cette espérance si merveilleuse, alors on se purifie déjà aujourd'hui. On devient déjà de plus en plus pur comme Jésus. C'est-à-dire que le fait de savoir que c'est ça notre avenir, c'est ça qui nous attend, alors ça nous aide à nous préparer déjà aujourd'hui, à aller dans la même direction, à lutter contre le péché, à grandir en sainteté, à être dès maintenant un peu plus proche de ce qu'on sera plus tard. Si vous savez que vous allez devoir déménager à long terme dans un pays qui a une culture vraiment totalement différente de la vôtre, une autre langue, des coutumes différentes, etc., vous savez que vous allez déménager là-bas pour y vivre, bah vous allez vous y préparer. Pendant les mois qui précèdent, vous allez vouloir apprendre quelques mots de la langue, apprendre la culture, apprendre comment les gens font, comment les gens se disent bonjour, ce que les gens mangent, etc., pour vous y préparer. Ben, c'est un peu la même chose en tant que chrétien d'une certaine manière, puisque c'est ça notre avenir, d'être sans péché, d'être ressemblant à Jésus. Alors dans le temps qui nous y mène, on veut déjà vivre comme cela, on veut progresser dans la même direction. Donc voilà ce que Jean veut dire pour ceux qui sont nés de Dieu par rapport à leur avenir, par rapport à notre avenir. Deuxièmement, Jean veut nous parler de notre rapport au péché, si l'on est enfant de Dieu, notre rapport au péché. D'abord, Jean veut qu'on... C'est notre deuxième point ensemble, donc dans les versets 4 à 10. D'abord, Jean veut qu'on comprenne bien ce qu'est le péché. C'est quoi le péché ? Ben, on sait en tant que chrétien que ce n'est pas une bonne chose, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Jean nous aide dans ce verset en nous donnant une définition de ce qu'est le péché. Regardez le verset 4. « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. » Péché, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est aller à l'encontre de ce que Dieu définit comme étant bien et comme étant mal. Aller à l'encontre de ce que Dieu définit comme étant bien et comme étant mal. Parce que Dieu est le critère parfait de perfection, il est juste, il est saint, il est pur, et c'est Dieu qui est le mieux placé pour dire ce qui est mauvais, et pour dire ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est pur et ce qui est impur. C'est ça la loi de Dieu, c'est, on pourrait dire, le code de conduite pour les êtres humains que Dieu a créé. Bah, péché, c'est jeter ce code de conduite à la poubelle, c'est le mettre de côté. C'est soit dire que Dieu s'est trompé, qu'en fait ce que Dieu a déclaré mauvais est bon, ou que ce que Dieu a déclaré bon est mauvais, ou alors c'est dire que ce que Dieu dit n'est pas important. Je fais quand même ce que Dieu a interdit, ou je ne fais pas ce qu'il m'a demandé. Et ça nous aide à comprendre la gravité du péché, la gravité de chaque péché. Comme on le dit parfois, c'est un être humain, un tas de poussière, qui se rebelle contre le Créateur de l'univers. Quelle gravité, quelle offense. Et donc, on ne doit pas se tromper quand on parle du péché. Il est courant d'entendre le péché être défini comme le fait de rater la cible. C'est une définition assez populaire que j'ai beaucoup entendue, que j'ai probablement moi-même utilisée dans le passé. Souvent, c'est ça la définition du péché qu'on donne. Rater la cible, il y a une cible qu'il faut viser, et péché, c'est être à côté. On est à côté de ce que Dieu veut pour nous. Alors c'est vrai que quand on pêche, on n'est pas en train de vivre comme Dieu veut qu'on vive, on est en train de manquer le but pour lequel on a été créé, on pourrait dire, c'est vrai. Mais en fait, ce serait vraiment réducteur de limiter le péché à ça. Non seulement la Bible ne définit jamais le péché comme étant le fait de rater la cible, il n'y a rien qui ne devrait nous amener à penser que c'est le cas, mais aussi, ça laisse penser que quand on pêche, on est juste un petit peu à côté de ce que Dieu veut pour nous. Oui, on n'est pas pile au centre, mais bon, ça compte quand même. Je voyais une vidéo sur TikTok cette semaine qui expliquait ça. Voilà, le péché, c'est rater la cible. Au centre, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais ce n'est pas le seul point qu'on peut toucher. Tant qu'on est sur la cible, c'est bon. On n'est pas au centre, mais on est sur la cible. Mais vous avez vu comment la Bible parle du péché dans ce verset 4. Péché, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est aller à l'encontre de Dieu. Ce n'est pas juste rater la cible, mais c'est vouloir tirer dans une toute autre direction. C'est vouloir tirer à côté de la cible, vouloir faire ce que nous on veut et rejeter ce que Dieu veut. Le péché n'est pas un manque, mais c'est explicitement aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Le péché, c'est un acte de rébellion. Et donc, on doit résister aux tentations de redéfinir le péché, de le rendre moins grave que ce qu'il est. Parce qu'on peut être tenté de transformer le péché en quelque chose dont on est victime, comme si ce n'était pas notre faute. Alors oui, bien sûr, le péché peut avoir des circonstances et des conséquences qu'on ne maîtrise pas, mais on doit toujours garder en tête que le péché que l'on commet est notre responsabilité. vient de nous-mêmes, de notre propre volonté. Ou on peut être tenté de dire, par rapport à certains péchés, mais c'est mon caractère, j'y peux rien, je suis comme ça, pour justifier la colère, justifier le mépris des autres, justifier la jalousie, l'envie, au lieu de reconnaître que ce sont des actes de rébellion dont on est coupable. Attention également à ne pas encourager nos enfants à minimiser le péché. Je lisais cette semaine un article d'un psychologue chrétien qui disait combien c'est facile de dire que tel ou tel comportement de notre enfant a des raisons psychologiques derrière, c'est pas de sa faute, au lieu de voir la rébellion dans le cœur de l'homme. Comprenons donc la nature du péché. Le péché s'oppose à Dieu. Mais c'est ça qui nous amène à la suite, à l'œuvre de Jésus, que ces versets mettent en avant. Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, est venu sur terre? Pourquoi est-ce qu'il est venu en chair? Il a revêtu la nature humaine? On a la réponse au verset 5, chapitre 3, verset 5. « Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. » Jésus est venu pour régler le problème du péché. Quelqu'un le dit comme ceci, « Si le péché s'oppose à Dieu, l'œuvre de Jésus s'oppose au péché. » Le péché s'oppose à Dieu, c'est ce qu'on a vu, mais l'œuvre de Jésus, elle s'oppose au péché. Jésus a fait ça en vivant une vie parfaite. Ce passage le répète à plusieurs reprises, que Jésus est sans péché, il est juste, il n'y a pas de péché en lui. Il a toujours vécu dans l'obéissance parfaite à Dieu, en faisant constamment la volonté de Dieu. Et Jésus a fait ça par sa mort sur la croix, en prenant sur lui la condamnation de nos péchés, en apportant le pardon à des coupables. Mais l'œuvre de Jésus sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, ont un impact encore plus grand que cela, encore plus cosmique que ça, on pourrait dire. Si on regarde le verset 8, la fin du verset 8, il est dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'œuvre de Jésus a porté un coup mortel au péché et un coup mortel au diable qui est à l'origine du péché. Jésus a dépouillé le diable par sa mort sur la croix. Il a dépouillé l'ennemi de Dieu de sa force. Il a remporté la victoire finale et définitive. Alors pourtant, on peut se dire, mais on lit ça, mais c'est vrai que le péché continue toujours. Le diable est toujours à l'œuvre. Il ne semblerait pas, à première vue, que Jésus ait détruit le péché, que Jésus ait détruit les œuvres du diable. Mais on doit réaliser que la victoire a été acquise à la croix, mais la capitulation finale reste encore à venir. C'est qu'une question de temps. Une image que quelqu'un utilise, Don Carson utilise cette image, il dit que c'est comme comparer le jour du débarquement pour la Seconde Guerre mondiale, en juin 1944, le moment où les troupes alliées ont débarqué en France, et l'armistice qui a eu lieu seulement un an après, la fin officielle de la guerre. Il y a encore eu des combats entre ces deux périodes. Il y a encore eu la guerre. Mais le jour du débarquement, même si la guerre n'était pas encore officiellement finie, c'était la seule issue possible. La défaite, ou la victoire pour les Alliés, on pourrait dire, était sûre et certaine. C'était qu'une question de temps. La mort de Jésus sur la croix, c'est comme le jour du débarquement. Et le retour de Jésus, c'est comme l'armistice, la fin de la guerre. Depuis que Jésus est mort sur la croix, depuis qu'il est ressuscité d'entre les morts, le diable n'a plus aucune chance. C'est terminé. La victoire est acquise, même si on ne le voit pas encore. C'est qu'une question de temps. Et donc, quand on est découragé par rapport à notre lutte contre le péché, on en a parlé, oui, on peut regarder à l'avenir qui nous attend, à ce qui arrive. Il n'y aura plus de péché, on aura une relation pleine et entière avec Dieu. Mais on peut aussi regarder au passé pour réaliser à quel point cet avenir est sûr et certain. La victoire a été acquise par Jésus sur la croix et donc la fin va arriver. Ce n'est plus qu'une question de quelques minutes sur l'échelle de l'éternité. Et si Jean nous dit tout ça, si Jean met en avant la nature du péché et combien l'œuvre de Jésus s'oppose au péché, c'est pour souligner à quel point, pour ceux qui sont nés de Dieu, leur rapport au péché a changé. En fait, Jean nous dit dans ces versets qu'il n'y a que deux familles possibles. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Et ce qui prouve à quelle famille on appartient, ce que nous dit Jean, c'est notre manière de vivre. Comme on l'a vu au début, on ressemble à notre famille, c'est normal. Il y a le même contraste qui est répété à plusieurs reprises dans ces versets. Par exemple, verset 6, « Quiconque demeure en lui, en Jésus, ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Début du verset 8, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Verset 9, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Donc il y a un contraste vraiment fort, il n'y a que deux options possibles. Soit on pratique la justice et on fait partie de la famille de Dieu, soit on vit dans le péché, on pratique l'injustice, et donc on est dans la famille de l'ennemi de Dieu, le diable, ce qu'on est tous par nature. Mais il faut bien comprendre ce qui est dit ici. Ce n'est pas qu'on devient enfant de Dieu en faisant le bien, ou qu'on devient enfant du diable en faisant le mal. C'est plutôt que notre comportement prouve à quelle famille on appartient déjà. Regardez le verset 10. « C'est par là, par notre manière de vivre, que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » C'est par là, c'est-à-dire par notre réaction vis-à-vis du péché, qu'on voit à quelle famille on appartient. Est-ce qu'on se comporte avec les traits de la famille de Dieu, ou est-ce qu'on se comporte selon les traits de la famille de l'ennemi de Dieu ? C'est ce que Jésus dit ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, quand il dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est la même idée ici. Et il faut comprendre également que Jean n'est pas en train de dire qu'un enfant de Dieu ne pèche plus, point à la ligne. Non, au tout début de sa lettre, Jean avait dit que celui qui disait ne pas pécher, ne plus pécher, se trompait. Il nous avait dit ça, et donc on sait que Jean ne se contredit pas, il n'est pas en train de dire le contraire ici. Il sait que les chrétiens vont continuer à pécher. On est délivré de la punition du péché, mais on n'est pas encore délivré de la présence du péché en nous. Et pourtant, il y a quand même une différence entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il y a quand même un contraste important. Puisqu'on est né de nouveau, puisque le Saint-Esprit a changé nos cœurs, alors on n'a plus la même attitude vis-à-vis du péché. Avant, le fait d'offenser Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous gênait, alors que maintenant, ça nous attriste. Si l'on est chrétien, si l'on est né de nouveau, on ne peut plus prendre le péché à la légère, si on a en tête ce que le péché est. Comme on l'a vu, le péché est totalement étranger à la nature des enfants de Dieu. Le péché proclame ce que nous ne sommes pas. Il proclame la rébellion envers Dieu, alors que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, ce n'est pas que le chrétien ne pèche plus, ce n'est pas qu'on va arriver dans cette vie à un moment où on ne luttera plus avec le péché, où on n'aura plus la présence du péché en nous, mais c'est qu'on n'a plus la même attitude vis-à-vis du péché. On ne voit plus le péché de la même manière. Et donc, dans un sens, ces versets sont un avertissement. Si quelqu'un dit croire en Jésus, si quelqu'un dit être enfant de Dieu alors qu'il vit dans l'injustice, alors qu'il vit dans le péché, sans en être gêné, sans chercher à s'en débarrasser, sans le confesser, alors il se trompe. Sa manière de vivre prouve qu'il n'est pas enfant de Dieu, qu'il n'a pas connu la nouvelle naissance, qu'il est toujours dans l'autre famille, celle à laquelle on appartient tous par nature. Donc ce que Jean nous donne ici, on pourrait dire que c'est comme un test pour savoir qui il ne faut surtout pas écouter. La semaine dernière, le test, c'était de savoir si ces personnes parlaient de Jésus de la bonne manière, enseigner la vérité par rapport à Jésus. Alors ici, aujourd'hui, le test, c'est l'obéissance. Est-ce que cette personne vit d'une manière juste? Est-ce que cette personne vit d'une manière sainte? Est-ce que cette personne reflète les traits de caractère de la famille de Dieu? Ce n'est pas que cette personne doit être parfaite, sans péché, mais c'est plutôt que si quelqu'un vient voir ces chrétiens en essayant de les enseigner, mais cette personne vit dans le péché, dans l'injustice, alors Jean leur dit, mais vous ne laissez pas tromper, il ne faut pas l'écouter. C'est la preuve qu'elle n'est pas dans la bonne famille. Ça nous aide à comprendre que la marque de la nouvelle naissance, ou l'une des marques de la nouvelle naissance, ce n'est pas simplement la connaissance, connaître des bonnes choses par rapport à Jésus, mais c'est aussi la pratique de la justice. C'est vivre en conséquence de ce que nous sommes, comme enfants de Dieu, d'une manière cohérente avec la famille à laquelle nous appartenons. C'est possible d'affirmer les bonnes choses par rapport à Jésus, en étant quand même à côté de la plaque. C'est possible d'avoir toutes les bonnes réponses aux questions difficiles, d'avoir une théologie impeccable, et pourtant de ne pas avoir la vie de Dieu dans notre cœur. C'est important de réaliser ça, que le caractère compte, pas juste la bonne théologie. Oui, bien sûr que la bonne théologie, la bonne doctrine compte, on l'a vu la semaine dernière, il faut s'attacher au Fils. Mais ici, il ne faut pas simplement proclamer les choses qui sont justes. Il faut aussi un changement de cœur. Le fruit de la vraie foi, ce sera un comportement qui honore Dieu et qui rejette le péché. Mais Jean écrit ça non seulement pour avertir ces chrétiens de ne pas écouter ceux qui vivent dans le péché, mais aussi pour les encourager, parce que eux, ils sont du bon côté. Ces versets ne sont pas écrits pour qu'on vive dans l'introspection, à chaque moment de la journée, en se disant mais je continue à pécher, même si j'en ai pas envie. Peut-être que je ne suis pas dans la famille de Dieu. Et ça peut tourner et tourner dans notre tête, et le doute devient de plus en plus grand. Mais selon ces versets, la limite est claire. Il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Le fait qu'on soit attristé par le péché, qu'on veut le rejeter, c'est la preuve que notre attitude vis-à-vis du péché a changé. C'est un signe de la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est la preuve que le Saint-Esprit nous a donné un nouveau cœur. Parfois, on peut être découragé, surtout peut-être au début de notre vie chrétienne, parce qu'on a l'impression de plus pécher qu'avant. Encore plus qu'avant, on a l'impression, on se dit, mais est-ce que je peux être chrétien et pécher autant ? En fait, ce n'est pas nécessairement qu'on pêche plus, mais c'est qu'on est plus conscient qu'on pêche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas qu'on pêche plus, mais c'est qu'on est plus conscient de ce que l'on fait. Avant, le péché, ça ne nous faisait rien, ça ne nous attristait pas, ça ne nous gênait pas. On n'avait aucune catégorie pour le péché. Mais maintenant, le péché nous dérange. On ne veut plus pécher. On en est conscient. Et donc, c'est la preuve que notre attitude vis-à-vis du péché a changé. Ou on peut avoir l'impression de ne pas faire de progrès, d'être en train de lutter depuis tant de temps. Et on a l'impression qu'on n'a pas progressé, qu'on est toujours au même endroit. Mais c'est un peu comme quand on fait une randonnée en montagne. Quelqu'un m'avait donné cette illustration un jour. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de chemin, on est déjà bien fatigué, et on voit le sommet qui est encore loin de nous. Mais si on s'arrête et qu'on regarde en arrière, on voit qu'on n'est plus là où on était. On n'est plus tout en bas, dans la vallée, on a fait du progrès, on a fait du chemin. Mais il faut juste s'arrêter et regarder en arrière. Ben, c'est la même chose pour quelqu'un qui est né de Dieu. Même si les progrès sont lents, même si les progrès sont plus lents qu'on aimerait, il y a quand même du progrès. On n'est plus là où on était, par la grâce de Dieu. Et troisièmement, Jean veut nous enseigner par rapport à notre amour fraternel pour ceux qui sont nés de Dieu. L'amour fraternel, notre troisième point, un peu plus court. Jean commence en donnant l'exemple de Caïn, le premier fils d'Adam et Ève. Caïn est l'exemple de la haine, l'exemple du contraire de l'amour, parce que Caïn a tué son frère au lieu de l'aimer. C'est un meurtrier, on retrouve cette histoire dans Genèse 4. Jean nous dit que par nature, on est tous des meurtriers, on a tous cette haine en nous. C'est frappant ce qu'il dit au verset 15. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurons en lui. La haine n'est pas différente du meurtre, c'est aussi ce que Jésus nous a dit dans le serment sur la montagne. Celui qui déteste son frère, c'est comme s'il avait commis un meurtre dans son cœur envers lui. La haine, c'est désirer la destruction de la personne. L'amertume, la rancœur, la jalousie. Ces choses sont les traits de caractère, non pas de la famille de Dieu, mais des descendants de Caïn. Mais ici, cette haine, elle est à cause de la justice. Au verset 12, « Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Si Caïn avait cette haine envers son frère, c'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et les œuvres de son frère étaient justes. C'était à cause de la justice. C'est pour ça que la haine appartient au monde, à ce monde dont on a parlé la semaine dernière, ce monde corrompu qui s'oppose à Dieu. Et le monde déteste ceux qui pratiquent la justice, parce que les œuvres du monde sont mauvaises. On le voit au verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. » Le monde qui nous entoure a des œuvres mauvaises, comme Caïn, et déteste ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui pratiquent la justice. On le voit facilement avec des sujets éthiques. Quand les chrétiens s'opposent, par exemple, à l'avortement et disent qu'un bébé dans le ventre de sa mère est un être humain. Quand les chrétiens s'opposent au soi-disant mariage homosexuel, qui s'opposent au fait qu'on puisse choisir son genre, qui s'opposent au mouvement LGBTQ+, quand les chrétiens veulent vivre différemment dans ces domaines, avec sainteté, selon ce qui est juste, selon le schéma de Dieu, le monde nous déteste. Alors c'est vrai que parfois les chrétiens eux-mêmes pêchent dans leur manière de s'opposer à ces choses, en le faisant avec mépris, avec haine, plutôt qu'avec amour. Mais on doit réaliser que même quand on le fera avec amour, on va devoir quand même vivre de manière radicalement différente dans tous ces domaines, et quand on le fera, même si on essaie de le faire de la meilleure des manières possibles, on sera traité d'être intolérant, d'être arriéré, d'être sectaire. On sera détesté par le monde qui nous entoure. C'est inévitable. Et il ne faut pas s'étonner, nous dit Jean. Il faut accepter ce coup et continuer à vivre avec sainteté. Alors si le monde nous déteste, si la haine appartient au monde, qu'est-ce que les chrétiens, eux, font ? Verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Nous, nous aimons. Nous pratiquons l'amour. Et Jean dit ici que le fait d'aimer ses frères et sœurs, c'est la preuve qu'on est passé de la mort à la vie. Et au contraire, ne pas aimer est la preuve qu'on est toujours dans la mort. C'est la même chose que ce qu'on a vu avant. Ta manière de vivre montre à quelle famille tu appartiens, à quelle famille tu ressembles. Ce n'est pas que les chrétiens aiment parfaitement. Ce n'est pas qu'on n'a jamais du mal à supporter quelqu'un. Ce n'est pas qu'on ne doit pas demander pardon pour des attitudes qui n'ont pas honoré Dieu. Mais c'est qu'il y a une différence. Tout comme ceux qui sont nés de Dieu vont avoir un rapport différent au péché, alors de la même manière, ceux qui sont nés de Dieu vont avoir un amour pour les autres personnes. Et il est ici question des autres personnes de la même famille, de la famille de Dieu, les autres chrétiens. Et l'amour que les chrétiens veulent avoir, c'est un amour surnaturel, un amour qui vient d'une autre planète, un amour qui se base sur celui de Jésus. On parle beaucoup de l'amour aujourd'hui, ça semble être la chose la plus importante, il faut aimer, il faut l'amour, mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser chacun faire ce qu'il veut ? Est-ce que ça veut dire que je dois avoir des sentiments, ressentir quelque chose ? Est-ce que ça veut dire que je dois m'aimer moi-même avant d'aimer les autres ? Ben voilà le vrai amour dans ces versets, le verset 16. « À ceux-ci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Jésus a donné sa vie pour nous. C'était nos péchés, mais c'est lui qui a payé. C'était notre condamnation, mais c'est lui qui l'a prise. C'était nous qui méritions la mort, mais c'était de sa mort, c'est de sa mort dont on parle. Il y a un contraste ici. Voilà le vrai amour, l'amour qui se donne. Ce n'est pas juste l'amour qui ne fait pas le mal, l'amour qui évite de faire certaines choses, l'amour sentimental. Non, c'est l'amour qui se sacrifie soi-même. C'est le contraste de la haine. C'est vraiment le contraste de ce que Caïn a fait. La haine cherche le malheur de l'autre, quitte à sacrifier sa vie à lui. Mais l'amour que Jésus nous montre, l'amour qu'on est appelé à avoir, cherche le bien de l'autre, quitte à sacrifier sa vie à soi. C'est ça que Jésus a fait. C'est ça qu'on est appelé à faire les uns envers les autres. Et c'est important de réaliser que cet amour, ce n'est pas un amour général qui plane en l'air, mais c'est un amour qui se montre dans le concret. On voit les derniers versets de notre passage, versets 17 et 18. « Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Ce verset parle d'une situation où on voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin, on a la possibilité de l'aider, mais on refuse. On ferme notre cœur parce qu'on n'est pas prêt à sacrifier un peu de nous-mêmes. Agir comme ça, c'est incohérent avec l'amour que Jésus a montré envers nous, où il s'est sacrifié pour notre propre bien. C'est ça qu'on est appelé à faire, les uns envers les autres. Peut-être que parfois, on se dit qu'on est prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs. On est prêt à se sacrifier pour eux. Je suis prêt à tout pour toi. Mais ici, il s'agit de choses concrètes. Et quand il s'agit de choses concrètes, pratiques, plus simples dans un sens, c'est d'être parfois plus difficile. On est un peu moins motivé. Mais c'est là que ça commence. C'est facile de dire qu'on aime, c'est facile d'aimer en parole, comme ce passage nous dit. Mais l'amour réel se montre dans le concret. Ce sont nos actes qui montrent notre amour. Le vrai amour ne se voit pas dans les poèmes, dans les idéaux, mais dans les actes du quotidien. Et c'est possible de ressentir ces versets un peu comme une condamnation. « Ah, je dois faire encore plus, il y a toujours plus à faire, il y a toujours des besoins à combler. » Mais je crois qu'on peut recevoir ces versets comme un encouragement. On voit dans cette Église un amour sincère. Oui, bien sûr, un amour qui n'est pas parfait. Oui, parfois on a du mal à supporter les uns les autres, on se marche dessus, etc. Mais malgré tout, on a un amour mutuel les uns envers les autres. On voit cela. On a un souci les uns envers les autres. Ce n'est pas juste de l'individualisme, ce n'est pas juste chacun pour soi. Et c'est encourageant de voir cela. C'est la preuve qu'il y a la vie spirituelle. C'est la preuve qu'on reflète les traits de caractère de la famille de Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai qu'on peut en même temps progresser, apprendre à perdre un peu notre confort pour le bien des autres, exercer l'hospitalité, savoir tendre la main à ceux qui ont besoin, prendre le devant pour aider ceux qui sont dans des situations plus difficiles. Et peut-être qu'on peut essayer d'être un peu plus concret, parce que je réalise que c'est facile d'aimer en général tous les frères et sœurs, je vous aime tous, c'est facile ça. Mais c'est un peu plus difficile ou plus concret quand c'est individuel, personnalisé, n'est-ce pas ? Donc peut-être une application de cette prédication, c'est d'essayer d'identifier 2-3 personnes dans l'Église, des personnes réelles, concrètes, avec un nom, un prénom, pour qui on peut prier. Prier pour ces personnes-là. Essayer de grandir dans notre amour pour ces personnes. Essayer de les aimer dans nos paroles et dans nos actes. Parce que Jean nous dit que c'est ça, les traits de la famille de Dieu. C'est ça que va produire le fait d'être né de Dieu. Un avenir glorieux, comme on l'a vu, un rapport différent au péché et un amour les uns pour les autres. Alors oui, alors qu'on termine, on est tous à des stades différents sur ce chemin. Il y a des hauts et il y a des bas. Et parfois, on a l'impression qu'il y a plus de bas que de hauts. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et j'aimerais vous lire une citation de John Newton, qui est un bon moyen de conclure gentiment. Voilà ce qu'il dit. « Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je pourrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que j'espère être. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Un enfant du péché, un esclave du diable. Je peux dire avec l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Souvent, peut-être qu'on est trop souvent concentré sur nos manquements, sur ce qu'on aimerait être, sur ce qu'on n'en fait pas. Et on n'est pas assez concentré sur la grâce de Dieu, sur ce que l'on n'est plus, que l'on est différent de ce que l'on était. Et si l'on n'est plus ce que l'on était, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Si ce changement a lieu, c'est par la grâce de Dieu. Si vous êtes ici, vous êtes en visite, vous découvrez la foi chrétienne, c'est dans cette grâce que se trouve la solution du changement. Pour devenir, passer d'esclave du péché, d'enfant du diable, parce que nous sommes tous par nature, à enfant de Dieu, pardonner nos péchés pour l'éternité. On vous encourage à creuser cette grâce. Pour qu'on puisse dire ensemble ce verset 1 du chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Prions pour terminer.